accompagné de toutes les exigences. Hein. On ne peut pas retirer ces 60 jours. Mais si le titulaire montre qu'il est sans passeport, sans certificat de naissance, etc., à ce moment-là, on peut retirer ce verrouillage. Et à ce moment-là, on peut retirer la quantité de difficultés imposées pour ce transfert. Hein, voilà.
Oui, James, je crois qu'il faudrait peut-être retirer ces titulaires de nom de domaine pour assurer une meilleure sécurité. Donc, oui, je ne sais pas si ça a été très clair pour le rapport avec la renonciation, le retrait. Est-ce que ça va être domaine par domaine? Parce que si nous avons un client qui nous envoie avec un mécanisme sécurisé une demande de retrait pour tout leur nom de domaine. Ils doivent cliquer sur des termes, sur des clauses, des conditions. Est-ce que ça doit être fait pour chaque transfert ou pour tous les transferts en même temps? Oui, merci beaucoup, Jeff. Je crois que la réponse à cette question, c'est que ça peut être fait globalement. Tant que le bureau d'enregistrement peut montrer que ce titulaire de nom de domaine a renoncé à effectuer un retrait dans les 60 jours. Donc, j'ai vu d'autres mains se lever. Oui, Volker. Oui, juste pour clarifier, je croyais comprendre que pour le retrait, ça faisait partie des conditions. Donc, si nous avons des termes et des conditions qui indiquent cela, eh bien, ça rentre en ligne de compte pour le droit au retrait du titulaire de nom de domaine. Une question de Raki. Oh, attendez, on la voit plus sur l'Internet, là, sur l'écran. Est-ce que serait possible de demander à l'ancien titulaire de nom de domaine? Je crois que Raki, j'espère bien comprendre votre question. Vous avez parlé de cette période de 60 jours. Et dans ce contexte, la réponse est non. C'est la question du verrouillage qui se pose. Donc c'est pour des raisons de sécurité qu'on a ces questions de déverrouillage et de laps de temps avant le déverrouillage. Oui, est-ce que vous m'entendez à distance sur l'Internet? Oui, voilà, très bien. Le son est revenu, donc je vais répéter la question. La question, est-ce qu'il serait possible de demander au titulaire précédent d'avoir la possibilité de retirer plus tard le verrouillage? Donc, vous savez, il y a cette période de temps de 60 jours. Si on demande de retirer le verrouillage, la réponse dans le contexte de cette politique, c'est non. Parce que le titulaire précédent doit le faire plus tôt. Parce que sinon, ça serait du piratage de nom de domaine. Oui, quelqu'un a des questions sur cette période de verrouillage de 60 jours? Donc, j'ai reçu beaucoup de questions sur ce qu'est un agent désigné. Et sur cette diapositive, vous allez voir la définition. Agent désigné signifie une personne, une entité que le titulaire précédent ou le nouveau titulaire autorise explicitement à approuver un changement de titulaire en son nom. Donc, voilà la définition que je vous ai donné. Nous pouvons maintenant en parler. Et avez-vous des questions et des commentaires à ce sujet? Oui, quelques questions qui arrivent à distance. Donc, on pourrait indiquer que si l'on donne un passeport, il y a une période de 5 jours qui rentre en ligne de compte. Je ne suis pas sûr, excusez-moi, mais je ne comprends pas la question, je suis désolé. Un commentaire sans micro. Commentaire sans micro est effectué dans la salle. Oui, Max Zopki, là, au micro, on essaye d'interpréter un petit peu la question et de la comprendre. Donc, je crois qu'Hélène, vous pouvez me corriger. Donc, les règles autour du verrouillage sont assez spécifiques. Il y a des règles de renoncement et de retrait qui sont moins spécifiques. Donc, on peut remplacer parfois le retrait par le verrouillage. Il y a des conditions qui s'appliquent. On peut ne pas avoir une période de verrouillage de 60 jours, mais on va toujours imposer une période de 5 jours d'attente pour avoir une authentification. Peut-être que ce serait la solution pour le libellé en d'autres termes. D'accord. Merci. Donc, une nouvelle fois, cette question, Kathleen Tubergen au micro. Vous avez eu une question sur les agents désignés. Pour que quelqu'un puisse approuver des changements, donc pouvoir contacter directement le titulaire de nom de domaine, ça donne de la flexibilité pour approuver certaines demandes. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à ce sujet sur les agents désignés ? Oui, Darcy au micro. Donc, c'est intéressant de voir que ça manque de l'étape finale de notification. Il me semble que nous avons suivi ce processus qui inclut soit le titulaire précédent, soit l'agent désigné, et que maintenant, il y a une pièce qui manque, une pièce manquante. Moi, je vois un petit problème à ce niveau lors de la communication avec nos clients. Donc, on renvoie un courriel et cela, la situation n'est pas très claire. Donc, est-ce que il y a une notification, de notice d'envoyer d'annulation? Oui, merci Darcy. Vous soulevez une question importante. Vous pouvez noter que dans les étapes de notification, ce n'est pas l'agent désigné qui est informé. L'agent désigné peut être notifié si on désire, mais ce n'est pas une obligation. Donc, en effet, là, il semble y avoir un petit manque à ce niveau, au niveau de la notification, de l'annulation, par exemple, d'un compte. C'est le titulaire précédent qui est informé et non pas l'agent désigné. Donc, je reprends la parole. Et c'est Darcy au micro une nouvelle fois. Oui, on espérait que c'était un oubli. Donc, vous nous dites que ce n'était pas un oubli. C'était quelque chose de volontaire. Hein. Non, c'était, oui, véritablement quelque chose que nous voulions effectuer dans les clauses. Kathleen Tubergen au micro. D'autres questions dans la salle ? Très bien. Eh bien, un autre donc les adresses email qui ne fonctionnent pas. Et si un titulaire précédent essaye de mettre à jour une adresse email ne fonctionnant pas, je crois que ça, on en a déjà parlé de par le passé. Il y a dans notre politique quelque chose qui permet au bureau d'enregistrement d'utiliser des informations supplémentaires lorsqu'on obtient la confirmation de la part du titulaire précédent, et cela n'est pas limité au whois qui est accessible publiquement. Donc comment est-ce que l'on va mettre cela en œuvre? Oui, c'est Phil au micro. Petit problème à ce niveau, me semble-t-il, au niveau des bureaux d'enregistrement, travaillant avec des revendeurs. Nous n'avons pas beaucoup d'informations à notre disposition. Et il y a des données et il faut qu'on les gère, c'est tout. on peut avoir un problème si on n'a pas les bonnes données à notre disposition. Il y a peut-être des textos qu'on peut envoyer, des SMS, des codes spéciaux si le courriel ne marche pas, si l'adresse email ne marche pas. Donc là, on revient un petit peu à la question dont on a parlé longuement à la RT. On en est arrivé au point où, pour nous, la personne qui est propriétaire des données, c'est très souvent les revendeurs. Les revendeurs ont plus d'informations que nous. Ils ont deux adresses e-mail. Ils peuvent contacter leurs clients. Donc, c'est à nos revendeurs que nous, avec nos revendeurs que nous devons travailler dans ce domaine pour pouvoir mettre à jour ces données et ces contacts, ces informations de contact des titulaires précédents. Donc on doit s'assurer que nous restons dans à la lettre, nous respectons à la lettre la politique. Donc c'est quelque chose d'important. Mais pour nous, nous devons travailler avec les revendeurs principalement. Rob, vous avez une question, un commentaire? Non? Question? Non? Très bien. Alors, par contre, à qui a une question sur l'Internet? Est-ce qu'une demande signée et écrite, et faite par écrit, serait utiliser des informations supplémentaires? La réponse est oui. Donc, Sarah, vous avez une question? Oui, Sarah Baki au micro. Oui, j'ai une question. J'allais dire, au sujet des agents désignés, je crois qu'il y a une certaine confusion qui règne à ce niveau. Sur le marché secondaire, nous avons les nouveaux titulaires de notre domaine. Est-ce que ça va être problématique? Comment est-ce qu'on doit procéder? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a été pris en compte dans cette politique? Donc, si je me rappelle bien, le consentement peut être obtenu par, en effet, l'agent désigné si consentement du titulaire précédent et du titulaire suivant. Néanmoins, en ce qui concerne la notification, c'est une étape de sécurité. On notifie qu'il y a eu un changement. On annonce qu'il y a eu un changement. C'est pour information. Alors, même une fois qu'ils ont un agent désigné, il faut qu'ils confirment? Non? Non, excusez-moi, j'ai mal compris. Une fois que le bureau d'enregistrement a obtenu le consentement, il a une certaine flexibilité dans la notification. Si elle est envoyée après que les changements s'appliquent, il n'y a pas besoin de demander l'approbation. C'est une question de notification, pas d'approbation. On dit simplement « ce changement a été effectué ». On notifie d'un changement. On ne demande pas une autorisation pour un changement. Oui, Darcy, mais écoutez, si je comprends bien, ça demande une option, des instructions sur comment annuler. Ce n'est pas notification de changement, c'est comment faire pour annuler. Et ça, sur le marché secondaire, cela me pose problème. Parce que maintenant, vous n'avez plus d'agent désigné, mais il y a des procédures d'annulation qui existent. Et il faut qu'elles soient viables, il faut qu'elles soient bien effectuées. Donc ce qui nous inquiète, c'est de bien gérer les procédures et les demandes d'annulation. James, vous avez la parole. Oui, je croyais avoir compris, mais maintenant je me pose des questions. Est-ce que l'on dit qu'ils peuvent, au moment du transfert, retirer l'agent désigné? Ouais, si l'agent il est désigné par définition. Donc, si vous nous demandez de donner à la personne la capacité de changer le transfert, donc maintenant il y a deux personnes qui sont autorisées. Donc vous avez un agent désigné, vous avez un titulaire. Ce système de procuration ne semble plus marcher. C'est pour ça qu'on est dans la confusion la plus totale dans la salle, parce que moi, je vois ce qu'on peut dire sur l'Internet, sur la salle de bavardage. Qui a le dernier mot? Est-ce que ça va être l'agent désigné? Est-ce que c'est le titulaire? Vraiment quelque chose qu'on interprète différemment. C'est pas comme ça que je vois et que je définis un agent désigné. Donc, j'aimerais qu'on... C'est vraiment une zone d'ombre et ça me demande... Ça demande d'être revu un petit peu, me semble-t-il. Merci, James Desourcy. Kathleen au micro. Le commentaire de Bob Moulton. Oui, je suis d'accord, James. Je crois que l'intention du groupe de travail, c'est que l'agent désigné, c'est en référence à un détail qu'on pourrait dire moléculaire, entre guillemets, dans chaque section. Et James, vous avez soulevé un bon point. Oui, Darcy au micro. On n'a pas d'objection sur une situation de marché secondaire ou un agent désigné. Envoyant une notification à un ancien titulaire de nom de domaine, ce qui nous gêne, c'est l'annulation. Ça pose problème, pour revenir à ce que disait James. Si on désigne un agent, l'agent a un certain pouvoir. C'est pas nous qui avons désigné un agent, c'est le titulaire. Donc, sur le marché secondaire, on n'est parfois pas au courant de cela. Je crois que ça va poser des problèmes. Hein. James au micro. Oui, Volker, vous vouliez parler avant moi? Excusez-moi. Volker, oui, je voulais... Oh, pardon. Une question de clarification. Je crois comprendre, dans cette clause, la notification peut être envoyée avant et on peut combiner les demandes. On a des mécanismes sécurisés. Avant d'envoyer 1, 2, 3, 4, 5 messages, on peut avoir 2 messages ou si c'est la même personne, la même adresse email. Ça répond à tous ces critères. Donc, on répond aux critères qui sont en vigueur. On les respecte. James, au micro? Oui. Pourquoi est-ce que cela n'est pas véritablement acceptable pour moi? Parce qu'on a parlé du marché secondaire. On a parlé des problèmes de protection de la vie privée aussi. Des problèmes de procuration qui peuvent exister. Donc là, nous avons ce concept d'agent désigné. Il peut y avoir des produits de sécurité, des produits anti-piratage. Et là, on crée un vide. Parce que si l'on désigne une entreprise de sécurité, un coffre-fort électronique, par exemple, mais s'il y a du piratage et que... On rentre dans ce nom de domaine, il y a des scénarios qui peuvent être véritablement négatifs. Ça peut véritablement poser des problèmes, sans peut-être même pas de manière volontaire, mais ça peut être du piratage involontaire. Merci James, merci Darcy, c'est utile, je prends note. C'est Kathleen Tubergen au micro. Autre question ou commentaire? Je m'appelle Rich et je travaille à GoDaddy. En ce qui concerne l'annulation, est-ce que c'est là le problème ou le problème c'est la notification? Je voudrais savoir et préciser un petit peu le thème que l'on aborde actuellement. Est-ce que l'on parle de notification ou d'annulation? Moi je pense que le problème c'est avec l'annulation. Notification, on a dit, on ne peut pas envoyer à la mitraillette des courriels. Mais le gros problème qui se pose apparemment, c'est l'annulation. L'annulation. Darcy hoche de la tête, semble acquiescer. Oui, tout à fait, Darcy au micro. On reçoit déjà assez de courriels comme ça, merci. Et je crois qu'il faut peaufiner un petit peu la procédure d'annulation. C'est également quelque chose qui doit être précisé auprès des centres d'appel qui répondent à nos clients. D'autres questions ou inquiétudes sur les agents désignés? Très bien. Donc, question à distance. Si un problème avec la politique a été identifié, par exemple, problème au niveau de l'annulation, est-ce que la politique sera retardée, remise à plus tard pour entrer en vigueur? Oui, on peut faire des changements mineurs. S'il y a des changements majeurs, ça, on ne peut pas les effectuer. Mais on peut peaufiner une politique. Jeff? Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsque l'on dit... Vous pouvez dire le personnel de l'ICANN, quand vous dites nous, c'est le personnel de l'ICANN. Donc ce ne serait pas un changement unilatéral, ça serait... Et si vous voulez quelque chose de formel de notre part, vous donnez l'autorisation d'effectuer une petite modification à la politique. Kathleen, oui, ce serait utile, oui, de recevoir vos avis, tout à fait. Mike Zepke, point de clarification. Une fois qu'il y a les recommandations de la GNSO approuvées par le conseil d'administration, il n'y a pas, dans le concept procédural, d'autres approbations. On ne va pas vers la communauté tout entière. S'il y a un problème au niveau de la recommandation qui doit être corrigée, moi je crois qu'il faut qu'il y ait une consultation publique, une consultation avec l'équipe. On ne peut pas travailler de manière unilatérale. Il ne faut pas commencer à faire des changements. Le personnel ne peut pas se permettre de faire des changements de cette manière, de manière unilatérale. Donc moi je crois que... On n'a pas besoin de retourner vers toute la communauté, mais je crois qu'il doit y avoir quand même un comité qui se penche là-dessus. Oui, une question de clarification, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais compris à l'ICANN. Vous savez que le personnel peut fixer une date pour la mise en œuvre et la rentrée en vigueur d'une politique, mais... Vous nous dites qu'on peut changer la date. Et après, si la politique n'est pas très claire et précise, donc on parle du 1er août, on sera prêt au 1er août, mais moi, j'aimerais que l'on réponde à cette question, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui, merci, Volker. Oui, c'est une question, Kathleen Tubergen, de micro. Oui, c'est une question un petit peu rhétorique que vous avez posée. En effet, ça dépend du calendrier de la politique, et si je me rappelle... Exactement, on avait 12 mois et les changements de la politique étaient annoncés en septembre. Donc ce n'était pas exactement 12 mois, mais c'était presque 12 mois. Donc l'IRTPC a eu une période de pratiquement 9-10 mois. Oui, merci Kathleen, Jeff au micro. Voyons, nous en sommes maintenant, on est en mars, hein, au niveau du calendrier... Nous avons beaucoup à faire. Nous voudrions formellement demander que nous revenions aux 12 mois qui étaient le laps de temps précédemment, si ce n'est pas possible. Et j'entends des inquiétudes de Volker et d'autres personnes. Beaucoup de bureaux d'enregistrement sont inquiets de cela. On fait du commerce de détail, c'est difficile pour le commerce de détail, pour les bureaux d'enregistrement. Nous avons tant de cas à traiter Je crois qu'on a besoin de plus de temps, donc qu'on doit revenir à ce laps de temps de 12 mois. Je ne sais pas si les autres, Owen, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me semble qu'on doit avoir une période avant le mois d'août où on commence, et ça c'est dans le cadre du RIR. Je crois qu'il faut préciser, dans le cas du RA, il faut préciser véritablement la situation, le laps de temps, parce que si on entend parler d'abus, de problèmes avec des noms de domaine, ça rend tout le monde très nerveux. Et il me semble qu'il faut être clair au niveau du calendrier. Donc, Volker, félicitations pour vos efforts. Mais moi, j'entends parler de beaucoup de bureaux d'enregistrement. Je crois qu'on est d'accord autour de la table. Je demanderai à Owen de parler à Maggie et à Alan et au niveau interne de travailler à cette conformité, à ce point de conformité, pour qu'il y ait un accord, une bonne coordination entre les deux départements de la CAN. C'est quelque chose d'important. Je crois qu'on peut le faire de manière collaborative. C'est pas un contentieux. C'est simplement la question qui se pose d'avoir un petit peu plus de temps et de bien respecter le calendrier.
Merci, James. Kathleen reprend la parole. Théo, allez-y. Théo prend la parole. Merci. Pour ajouter à ce que James vient de dire, nous avons la sensation ici que nous luttons, hein, mais on ne sait pas ce que le reste des bureaux d'enregistrement affrontent actuellement. Nous, à l'extérieur du groupe de parties prenantes, on n'a aucune idée de si les gens lisent nos mails ou pas, par exemple. Lorsque notre organisation fait ce type de changement important, on essaye de changer de manière proactivement, d'envoyer cela à nos revendeurs et de leur demander s'ils font quelque chose pour joindre leur bureau d'enregistrement, pour leur demander s'ils sont au courant de ce qui arrive, parce que si ces gens doivent s'occuper de cela le 1er août seulement, ça sera trop tard et il va y avoir beaucoup de désordre et ça sera difficile ensuite à arranger tout ça, à réparer tout ça. Merci. Kathleen reprend la parole. D'autres bureaux d'enregistrement ont-ils quelque chose à dire au niveau des délais, au niveau des dates? Est-ce qu'il y a un accord? Prendre la parole pour nous, c'est bon. Le 1er août, c'est bon. C'est un peu au milieu de l'été. Donc, ça peut être compliqué dans ce sens. Darcy prend la parole. Un de mes soucis par rapport à la fin de l'année, c'est que pour beaucoup de compagnies, nous ne déployons pas notre code pendant 3 semaines à la fin du mois de décembre et les premières semaines du mois de janvier. Donc, je suggère, quand on parle d'extension, de la procédure, je pense que le 31 janvier, ce serait bien comme extension, parce que sinon, ça veut dire pour beaucoup de compagnies, plutôt début de l'année, ça va nous compliquer les choses. Et je suis d'accord avec ce que James a dit. Si nous voulons faire une période de conformité légère, ce sera acceptable aussi. Graham prend la parole. J'ai entendu que beaucoup de gens ont des problèmes avec cette politique, donc je pense qu'une extension serait appropriée. Et ce que Darcy a dit sur les codes, oui, c'est bien. C'est un système qui est fermé pour la vacance, pendant les vacances à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier. Donc, ce serait une bonne idée, cette extension. Martha Bailina de COHAP, nous soutenons, nous sommes d'accord avec ce que James vient de dire. Nous aussi, nous apprécierions une extension de la date et effective ou du lancement pour l'application de cette décision. Nous sommes d'accord aussi, dit un autre participant. Nous avons besoin de davantage de temps. Si cela peut être possible, nous apprécierions. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce que tout le monde a dit. Un autre représentant prend la parole. Vous voulez qu'on fasse une demande formelle pour que l'on prolonge, pour avoir cette extension? Je vois que beaucoup de gens disent que oui. Bon, ben, si vous voulez, nous allons faire cela. Kathleen prend la parole. Oui, allez-y. Un participant prend la parole. Je suis de GoDaddy, Rich. L'impact sera sur les titulaires de domaine et sur les bureaux d'enregistrement. C'est, à mon avis, un impact qui est moins sur le bureau d'enregistrement que sur les unités constitutives qui doivent soutenir tout ce travail. Merci. Kathleen prend la parole. Merci. Voyez ici sur l'écran, nous avons une diapo qui parle des services de protection de la vie privée et de proxy. Et je vais demander aux participants dans la salle s'ils ont des questions concernant les services donc de protection de la vie privée et de proxy. Doivent-ils fonctionner? Bien. Nous avons des problèmes ici. Nous avons lutté au niveau de la mise en œuvre dans notre groupe de travail pour ces services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. Il faut reconnaître que cela correspondait aux efforts du PPCI. Et je pense que il est deux problèmes. Serait voir comment les services d'enregistrement fiduciaire sont mis en œuvre, comment est-ce que cela doit être annoncé au bureau d'enregistrement, est-ce qu'il s'agit seulement d'une adresse ou des contacts de la personne. Il me semble que tout le monde devrait se présenter pour offrir et ces changements, lorsqu'il y a des changements au niveau du bureau d'enregistrement. Si l'on peut envoyer quelques références concernant l'agent désigné que l'on a identifié, cet agent peut travailler. Si les services d'enregistrement fiduciaire sont une entité privée, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je ne sais pas ce que l'on doit faire. Merci, James. Poker, vous avez levé la main. Oui, je voulais juste reprendre ce que James a dit Poker. Pour nous, en tant que bureau d'enregistrement, lorsque le service d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire est affilié, nous devons tenir compte de données qui font que nous ne pouvons pas tenir compte des changements de données. Mais quand ce n'est pas le cas, à ce moment-là, nous devons remplacer ces données par les données du titulaire réel. Et des fois, c'est difficile. Merci. Mike, du personnel de l'ICAM, il semble que les deux possibilités identifiées doivent figurer dans la politique. Si le titulaire est un service donc d'enregistrement fiduciaire est retiré et qu'on a mis le nom d'une personne à la place, on a un changement de titulaire et à ce moment-là, les services d'anonymisation doivent être appliqués ici et on a un changement de titulaire. Ce qu'on considère, c'est que il semble que on pense qu'il y a une notion ici d'agent qui réglerait certains problèmes de façon à ce qu'on ne soit pas obligé d'avoir l'approbation du client.
Simon
prend la parole. Lorsqu'on regarde les spécifications concernant les services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire 1.2, on définit les services d'enregistrement fiduciaire comme celui de titulaire du nom de domaine. Et donc, les informations de contact sont déployées dans le WHOIS. Et donc, si le changement dans le processus de transfert est mis en œuvre et vise le titulaire de registre, je pense qu'il faudrait que les services d'anonymisation ne changent pas le titulaire du nom de domaine. Donc, à mon avis, il me semble qu'on devrait pouvoir le faire sans la nécessité d'avoir une confirmation du titulaire du nom de domaine puisqu'il n'a pas changé. Merci. Kathleen prend la parole. Merci, Sim. Je voudrais reprendre ce que Mike a dit, c'est-à-dire que dans la définition que nous avons dans la politique, la suppression d'un service d'anonymisation d'enregistrement fiduciaire serait un changement matériel. Mike prend la parole. Vous savez ce que nous voulons ici dire dans la section de chiffre romain numéro 2 A 113, c'est le changement, donc le matériel, donc le changement dans les noms du bureau d'enregistrement. 1131 dit qu'une organisation qui n'a, quand il s'agit d'une, quand il ne s'agit pas d'une correction typographique, lorsqu'il n'y a pas, lorsqu'il y a un changement dans le nom et l'adresse, le numéro de téléphone, et 1133, changement de l'adresse email du titulaire. Donc ici, vous voyez, les services donc de, d'anonymisation parlent de changement dans l'adresse email, mais l'adresse email, c'est en réalité et le client, les changements et concernent le client quand on parle de nom, de téléphone et d'adresse email. Kathleen prend la parole. Il y a une série de questions de la part des participants de la salle. Une question ici de Riquet qui dit: est-ce que j'ai bien compris, Mike, que l'on peut construire l'approbation dans notre, selon les termes de donc service d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, que ce soit un agent désigné, si je l'ai bien compris? La réponse est oui, vous pouvez. Les services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire peuvent être l'agent désigné. Et j'autorise donc ce service d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire à confirmer les changements et à dire que ces changements peuvent être faits. Et dans les clause de service proxy. Nous avons quelques minutes de plus, donc les questions qui n'ont pas été prises, j'y répondrai par email si je n'ai pas répondu à vos questions. Donc la question est: le titulaire du nom de registre et la personne qui est déposée par le RDE, correct ou pas? La question a été posée par Chris Pelling. La définition qui est importante ici pour les registrants précédents, c'est ce que Chris demande. Le titulaire du nom de du registre du nom de domaine est demandé et nécessaire. Bien, et là-dessus, je vous remercie d'avoir participé à cette session. Je pense que ça a été une bonne discussion. Merci. Merci à tous les membres de l'équipe de mise en œuvre de la révision et d'avoir participé. Si vous avez des questions, envoyez-les à notre email, donc questions sur le RAA, et nous y répondrons. Merci.